Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné désormais du revenant Amiral Armbar. Salut Amiral.
Salut IRM, salut les potos. Ben oui, après avoir fait un peu plus tôt cette semaine l'état des lieux sur le show rouge Raw, on s'attaque maintenant à SmackDown Live, le nouveau A-Show de la WWE depuis qu'ils sont sur Fox. Enfin, A-Show, on ne sait pas combien de temps ça a duré, puisqu'ils ont eu là leur plus basse audience depuis le changement de network.
Oh, l'amiral surveille les chiffres, attention.
Ouais, ah, c'est important, je pense que vu la thune que c'est le contrat avec Fox, eux aussi, les exécutifs doivent surveiller les ratings, et effectivement, là, cet épisode-là, c'est le plus bas depuis que SmackDown est sur Fox. Ça continue de dégringoler. Pour une petite très rapide, on était à 3,8 millions pour le premier épisode sur Fox. Ouais. On est rapidement descendu à 2,8 millions, hein. On a perdu 1 million de viewers la deuxième semaine. Puis c'est passé à 2,5 millions, 2,5, 2,6, 2,3 pour cette semaine.
Alors, est-ce que la faute à qui, la faute à quoi ? Est-ce que on a des épisodes à la qualité, on va dire, regrettables ? Ou est-ce que le match
s'est fait d'ailleurs ? C'était regrettable cette semaine. Hein. Alors après, on est toujours dans une position bizarre dans cette période de l'année, où en plus on est après le draft, donc il y a plein de nouveaux trucs, mais en fait les storylines sont un peu en pseudo-suspens parce qu'on a les Survivor Series avant d'avoir attaqué la Road to WrestleMania avec la fin d'année et le Rumble. Donc je sais pas quoi, c'est un peu bizarre quoi, ce qu'on a en ce moment en termes de storyline à SmackDown. En tout cas, il n'y a pas grand chose de super excitant comme on va le voir. Enfin, moi j'ai pas été conquis.
Bon ben, n'est pas conquis mais qui est conquérant, c'est le roi. Le roi Corbin. Et oui, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant l'absence de l'amiral. C'est-à-dire ouais. Corbin est passé de baron à roi.
C'est bien la promotion sociale, écoute.
Une belle promotion. Ouais. La
monarchie de Stamford se porte toujours bien. Voilà, ah, avec oui. sa belle cape et sa couronne, tout droit sortie d'un cosplay de Game of Thrones. Bon, c'est mieux quand même que les ustensiles de quincaillerie habituels et King of the Ring, hein, qui étaient vraiment très cheap. Pour moi, ça marche pas trop mal avec son côté lone wolf, hein, il fait un peu le Stark du pauvre comme ça.
Le Stark du pauvre, c'est pas mal. Mais si, là, tu me donnes plein d'idées pour les titres de l'épisode. Rien que pour ça, ça valait le coup que tu reviennes.
Avec grand plaisir, je suis là pour des super punchlines. par contre, même remarque que je faisais quand on a parlé de Raw pour la musique d'intro des Kabuki Warriors où ils mixent la chanson de Kairi Sane et d'Asuka. Là, c'est pareil, espèce d'hymne royal mixé avec le theme song de Corbin et puis on revient sur l'un, puis on va sur l'autre. C'est nul qu'ils arrêtent de faire ça, quoi. Ça marche pas du tout. On dirait une espèce de DJ de mariage qui s'est mixé salement deux morceaux sans savoir ce qu'il fait en fait, et c'est un peu l'impression que ça me donne quoi.
Et l'amiral, il en a fait des mariages, hein.
Ça je peux vous le dire.
Il peut vous dire.
J'ai entendu DJ pourri, hein. Et ben maintenant il bosse à WWE, je peux vous le dire.
Mais je crois qu'en plus effectivement tu dis ça, mais l'ancienne team là qui avait fait tous les gros theme songs de ces dernières années, je me demande s'il bosse plus, je crois, à WWE.
Non, je sais, ouais, il y a effectivement des gros sound designers. Mixeur ouais, qui n'y est plus. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a une petite baisse de qualité ? Je ne sais pas, mais...
Bon, on cherche toujours les coupables pour tout et n'importe quoi, la WWE.
Pointons les coupables.
Voilà, et eh ben le roi Corbin, lui, il pointe des coupables, il pointe Dolph Ziggler... Dolph Ziggler, il est beaucoup pointé, mais c'est plus par les fans qui pointent Dolph Ziggler. Non, il ne pointe pas Dolph Ziggler, en tout cas pas tout de suite. Il pointe Roman Reigns.
Le Big Dog,
toujours par rapport à ce qu'il avait dit la semaine dernière, le Big Dog n'assure pas, le Big Dog n'est pas le leader charismatique qu'il est censé être. Le roi Corbin est un grand leader. Il va mener SmackDown vers la victoire, car ceci, SmackDown, est son royaume. C'est pas le simple jardinet du chien. Il est le capitaine de la team SmackDown. Je suis content personnellement, effectivement, de voir le roi Corbin mener cette équipe vers la victoire. Il a un souci, par contre. C'est que il est peut-être le leader de l'équipe, mais qui constitue l'équipe, c'est pas folichon, parce qu'il y a Ali et Shorty G, le petit G.
Alors, Ali a retrouvé son prénom. Hein. Ali a retrouvé son prénom, on redit plusieurs fois Mustapha Ali, ça y est.
Ouais,
encore les fameux allers-retours en termes de changement de prénom, t'enlèves ton nom, te raccourcis, on le change, on revient, sans aucune explication, sans aucune logique, sans rien.
Ouais, ça, ouais, bon, ça va, ça vient effectivement. Il y a de l'indécision, hein, à SmackDown, à la WWE. Et surtout, il y a de l'indécision dans cette fameuse équipe de SmackDown, puisque lui, il aimerait voir plutôt Robert Roode et Dolph Ziggler le rejoindre dans cette équipe. Effectivement, Robert Roode et Ziggler qui sont intervenus en la faveur de King Corbin la semaine dernière. Et ils sont pas seuls, donc les trois sont là, et ils sont pas seuls, ils invitent le Big Dog à venir sur côté ringside. La musique de Roman Reigns s'enclenche, et malheureusement, c'est une marionnette type mascotte d'équipe de football universitaire qui débarque. Un gros chien, donc un mec déguisé en gros chien, d'ailleurs, qui était sous le costume, on ne le sait pas encore. Qui arrive et qui se baisse et fait des petits numéros sous les ordres du roi Corbin. Voilà, une fois de plus, on ridiculise Roman Reigns. Ça va suivre un match pour tout simplement décider si Mustafa Ali et Gable vont garder leur place face à Robert Roode et Dolph Ziggler. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette intro?
J'ai trouvé ça assez mauvais, assez nul. Vraiment, la moquerie de Corbin, Roman Reigns avec le petit de chiot était assez enfantin, vraiment niveau école primaire. Avec l'espèce de mascotte qui n'a rien fait, qui n'a servi à rien. Moi, je comprends pas comment, ben, du coup, un personnage comme Roman Reigns, qu'on présente un petit peu comme un mec un peu badass, etc., attend tout ce temps avant de se pointer au niveau du ring et dire, OK, ça suffit, quoi. Moi, j'aurais bien vu le moment où la mascotte arrive au niveau du titan tronc, commence à arriver vers le ring et Roman Reigns qui est par derrière et qui le balance dans les barricades et, enfin, un truc un peu plus courant, un peu plus musqué. On est quand même dans des émissions de catch, hein, on n'est pas chez les 30 millions d'amis, donc j'ai pas trouvé l'enchaînement intéressant. Et puis après, ouais, le pourquoi du match, Corbin s'autoproclame capitaine de l'équipe, il autoproclame un match, il book un match tout seul pour dire, ah bah tiens, voilà, l'équipe elle est faite, ben non, on va faire un match pour remettre en jeu les spots qui étaient déjà attribués. Voilà, et tout ceci continue de me rendre triste pour Robert Roode, hein. Le pauvre Robert Roode qui est cantonné à faire des cheerleaders pour Baron Corbin, pour le roi Corbin, alors que bon, bah, on se rappelle, hein, pour ceux qui l'avaient vu de Bobby Roode à l'époque où il était NXT Champion, où il était super over en tant que face avec Glorious, même s'il faisait pas grand chose, et là, le voir un peu en henchman de Corbin, c'est assez triste.
Ouais, ça c'est je crois qu'il faut oublier, hein, cette époque-là.
Ouais.
Bobby n'est plus Bobby, c'est Robert non. Dorénavant.
Et surtout tout ça pour rien au final, quoi. Au final,
ouais.
il perd le match clean, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire qu'à la fin du segment, à la fin du match, ça n'a strictement rien changé, quoi que ce soit, à part s'il fallait, si encore il fallait le faire, confirmer et légitimer la place de Shorty G et Mustafa Ali dans l'équipe. Bon, c'est.
Ouais. Bon, le match était correct, hein, entre tout ce beau monde,
ouais.
Effectivement. Roman Reigns est arrivé pendant le match, donc c'est vrai qu'il a mis beaucoup de temps avant de venir imposer sa présence. Moi, je pensais qu'on allait voir au moins le chien se faire démonter, mais même pas, il s'est barré. Effectivement, victoire des Babyface qui ne change rien à la carte déjà établie. Donc,
ouais,
ça a été un petit peu vain, c'est dommage.
Ouais, c'est 20, puis il n'y a pas de moment fun, quoi. Il y avait le chien, il n'y a eu qu'un moment fun. Si on se rappelle à l'époque où ça remonte à très longtemps, où Jack, non pas Hager, mais Swagger, était champion à WWE, qu'il avait son trip All-American avec son espèce de mascotte aigle qui l'accompagnait partout et qui était
en
avec le Big Show, qui était face à ce moment-là, bah, le Big Show, je crois qu'il avait choc-slamé à travers la table la mascotte aigle et tout le monde avait popé parce que voilà, c'était.
Ouais.
Et ben là, même pas ça, ils le font, quoi. Il doit prendre un petit spear, le chien.
Mais oui, un spear, un drive-by. Tu sais, tu fais pendant quelques semaines, le mec il se fait démonter. Et au bout de 2-3 semaines, en fait, le mec enlève son masque. Et en fait, je sais pas, c'est Heath Slater. Et qui fait, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre, je me casse.
Ah oui, mais là, tu parles d'un truc qu'ils prévoient sur 2-3 semaines à l'avance.
Oui, je sais.
Ça marche pas, ça, WWE. Ils font plus, ça. Hein. Faut oublier, il reste plus qu'un épisode avant les Survivor Series. Donc, on n'a pas un truc sur 2-3 semaines. C'est la prochaine fois, puis après, c'est les séries. Point.
Bah alors, donnez-nous du fun là, maintenant.
C'est ça, on n'a rien de compliqué, quoi, juste un petit...
C'est ça qui est ouf, c'est que c'est pas juste sur ce segment-là, c'est sur plein de storylines, t'as l'impression... Mm-hmm. D'un côté, ok, t'as l'impression qu'il prévoit rien à l'avance, et c'est vrai, il l'avait avoué il y a quelques années, où avec tous ces changements, le planning, le network, grosso modo, il réfléchissait plus qu'en mode c'est quoi le prochain pay-per-view, et encore... et d'un autre côté, on nous offre pas du fun tout de suite. T'as l'impression qu'ils se retiennent de faire plein de choses pour je ne sais quelle raison. D'accord, ok, ne prévoyez rien sur un mois, si vous voulez, tant pis, c'est nul, mais allez-y. Mais dans ce cas-là, n'attendez pas pour nous amuser, quoi. Et ce chien débile qui vient d'arriver, tu résous tout en un épisode, grosso modo. Le chien arrive, on se moque de Roman Reigns, et dans le même épisode, il se fait prendre un gros spear dans la gueule, et comme ça, l'histoire avec le chien est terminée. À la limite, tu peux la refaire la semaine d'après, ça devient un running gag si tu veux.
Exactement, ce que je me suis dit pendant l'épisode, c'est que bon, c'est assez clair maintenant que McMahon n'est pas fan du long-term booking, hein, ça c'est évident, ou alors il s'y prend très très mal, et qu'il est plus attiré par tout ce qui est les mark-out moments, les pop moments, les wow moments, ce que tu veux, mais que ils ont du mal à le faire, quoi. Ils ont du mal à faire un truc sur le moment, sur l'instant, qui est éphémère et qui n'a pas trop de build-up, qui n'a pas de conséquences, mais qui soit sympa, fun, ou oh my god. Non, c'est assez rare, quoi. Je pense qu'il y a une vraie faiblesse en termes de mise en scène et scénaristique à ce niveau-là, quoi. De créer des moments simples et efficaces qui ne vont pas forcément rester dans ceux dont tu te rappelles à la fin de l'année, mais qui te font rigoler, quoi.
Ouais, exactement. En tout cas, on nous tease, il y a une petite séquence après où le roi Corbin promet à Dolph et Robert qu'il va arranger les choses.
Oui, et c'est marrant parce qu'ils sont dans les backstage, hein, donc il leur dit ça alors que Robert Roode et Dolph ont les glandes après ce match. Et Corbin, il a l'air tout sérieux et fait signe à sa mascotte chien de venir genre « Viens, il faut qu'on parle, on va faire une réunion, quoi. » Enfin, genre, mais qu'est-ce que tu fais, quoi. Il le fait vraiment genre « Signe de main, viens, c'est sérieux. » C'était un mec dans un costume de chien à 15 balles, quoi. Enfin, faut arrêter. Ça n'a aucun sens.
Bon, on verra ça. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Hein. On va savoir plus. Il y aura un 3
avec... On le reverra jamais, ce chien.
Je pense qu'on le reverra, non. Moi, je... Alors, franchement, si c'est pour se faire démonter, je veux bien qu'on le revoie, toi. Il faut vraiment qu'il se fasse démonter. De toute façon, il y a un 3v3 la semaine prochaine. Corbin, Dolph animal, hein. Et Root contre Reigns, Ali et Gable, ce qui est complètement con. Mm. À deux jours de Survivor Series, tu fais s'affronter des mecs qui vont être dans la même équipe et donc qui risquent de se blesser, quoi. Qu'effectivement parlant, déjà, ça, c'est un peu complètement débile, quoi. Mais bon.
voici une fenêtre, voici la cohérence, je dirais, et ça fait longtemps qu'elle est passée à travers.
C'était une très grosse fenêtre. Ouais, beaucoup de choses sont passées à travers.
Une dévitrée. Hein.
C'est peut-être Braun Strowman d'ailleurs qui a balancé tous ces trucs par la fenêtre. Il est tellement grand, il est tellement fort, il est tellement costaud. Que ce soir, il a démonté la victime et Drogulak, parce que Drogulak ne lâche pas le morceau. Il en a après Braun Strowman depuis plusieurs semaines. Et voilà, il n'y avait pas de match, juste la B-Team qui s'est fait rouler dessus et Drew Gulak qui a fait même pas vraiment une presse de PowerPoint dont il avait visiblement le secret.
Non, une slide.
Une slide, oui, c'est ça. Je me suis douté que ça allait être une presse de une slide, mais ça ressemblait pas vraiment à une slide. C'est une espèce de photomontage où il se faisait lever le bras par l'arbitre qui était juste là en plus. L'arbitre qui est toujours avec
Little Nate.
Merci Little Nate Robinson. Voilà, donc Braun Strowman qui sera lui dans l'équipe aussi hein, de SmackDown. Donc,
Et Drew Gulak voulait récupérer la place de Braun Strowman et voulait dire à tout le monde que c'était plus intéressant pour SmackDown que ce soit Drew Gulak qui soit dans l'équipe plutôt que Braun.
Le mec a essayé de faire sa place quand même.
Ouais, c'est un peu la storyline de l'épisode. Hein. C'est ce que veut faire Ziggler et Roux, c'est ce que veut faire Drew Gulak. Allez, c'est parti.
Voilà, Braun Strowman, où il en est.
Il en est un peu nulle part, hein. C'est fou. Hein. Il est devenu l'espèce de mec à qui on file des storylines avec des célébrités.
C'est ça.
La B-Team et Drew Gulak, même pas dans un match, dans un segment ring qui dure 2 minutes.
C'est ça, on l'occupe tranquillement.
Ouais.
Tu parlais de place pour Survivor Series. Il y avait aussi Sami Zayn et Nakamura qui étaient avec Daniel Bryan. Alors, je vais peut-être le garder pour la fin. Ouais. Je vais le garder pour la fin parce que ça fait partie d'un tout. On va plutôt parler de la scène tag team. Mm-hmm. Ce qui existe encore et toujours une scène tag team à SmackDown. Les New Day ont repris le titre au Revival la semaine dernière. Du coup, il y a un rematch ce soir. On a une petite séquence backstage. Alors moi, j'adore quand on voit Big E faire sa promo. Parce qu'effectivement, toutes les semaines, je ne pensais pas, mais jusqu'à la première fois, ils l'ont dévoilé. Toutes les semaines, c'est bien Big E qui fait en direct son intro depuis la Gorilla Position là, avec son micro pour haranguer la foule. Ce soir, donc, ils ont leur match avec The Revival. Ils ont une petite pensée pour leur pote Xavier Woods, évidemment. Un match déjà vu mille fois, si ce n'est que un match qui va finir interrompu par une attaque de l'Undisputed Era.
Shock the System.
Voilà, bah, ouais, le système a été bien choqué ce soir, puisque les mecs ont roulé tout simplement sur le New Day, et même The Revival, ça c'était vraiment cool, ils ont vraiment tabassé tout le monde.
Ah bah c'est Undisputed Era, ils n'ont rien à foutre de qui est face ou heel, t'as pas leur t-shirt, t'es pas avec eux, donc ils te roulent dessus, c'est l'action hein, qui est le truc le plus cool qu'il y a à la WWE depuis longtemps, j'ai l'impression, en tout cas moi ça marche, je suis vraiment très très fan de cette faction.
Ouais, t'as kiffé là je pense.
Ouais, c'est sympa, tu vois, enfin, en plus... J'aurais bien aimé voir un match 4-4, tu vois. Enfin, ça m'aurait intéressé plus que ce qu'on a vu après, d'ailleurs. Mais voilà, ils sont assez impérieux. Ils sont bien dans leur rôle de sale gosse, cool à la fois, mais insupportable. Et puis voilà, quand ils sont battus en retraite à travers la foule, quand une partie du locker room de SmackDown est revenue à la rescousse des New Day et des Revival, ils sont dans la foule, tout sourire, l'Undisputed Era, Adam Cole qui dirige la WWE. Sans se démonter, les sourires entre $1000 sur leur face, enfin c'est parfait.
Ouais, excellent, ouais. J'ai bien aimé effectivement qu'ils étaient dans la foule. Alors, je tique toujours un peu sur le fait que les mecs, à chaque fois, ils se font renvoyer chez eux par toute la low-card de SmackDown.
Ah ouais, c'est ça.
C'est
la voiture balai, quoi.
Ouais, et en plus, il y a un pouvoir magique, une espèce de barrière mentale qui est vraiment matérialisée par les cordes des rings, puisque grosso modo, t'as les gars de Undisputed Era qui sont en train de foutre le bordel, ils se sauvent de battre en retraite, et t'as l'armée des low-carders de SmackDown, mais ça, c'est valable pour n'importe quel membre du roster, qui leur courent après pour leur botter le cul, quoi, grosso modo, leur donner une bonne leçon et les faire partir. Ouais. Et les mecs, ils se jettent tous dans les cordes et ils restent bloqués. Ils ne peuvent pas passer la barricade pour continuer la chasse à l'homme. Quoi, ça.
Ouais, mais c'est symptomatique de WWE. C'est pour ça, petit aparté, mais qui a directement un lien à ça, qui était génial la séquence sur AEW, All Elite Wrestling, avant Full Gear, entre la rivalité entre Cody Rhodes et Jericho, où Cody Rhodes a un annoncement à faire dans le ring, il est interviewé, et puis il y a Jericho et ses potes du Inner Circle qui ont des espèces de cornes de brune qui font du bordel, et qui insultent Cody Rhodes, et Cody Rhodes, il fait « Hey, Chris, faut pas oublier un truc, ici, c'est pas comme l'endroit d'où on vient tous les deux. » Il n'y a pas une barrière magique qui m'empêche en fait d'aller jusque là où tu es en fait et de
sortir du ring.
Ouais, carrément. Et il est rejoint par son frère et ses alliés Cody Rhodes et il va à la poursuite de Jericho et ses potes jusque dans les stands de concessions, etc. Et il a dit cette phrase justement en typiquement de voilà, il n'y a pas de barrière magique qui m'empêche, il n'y a pas de mur invisible. Et du coup, ouais, des gens un peu critiqués en disant oh, c'est encore un jab, encore un uppercut que veut foutre Elite Wrestling à WWE. Ben ouais, mais pour le coup, ils ont
regardez,
c'est QFD.
Ouais, bah tu vois, effectivement, là, bah, on est connecté avec Cody plus que je ne le pensais. Ouais. Parce qu'effectivement, à chaque fois que je vois ça, les mecs en plus sont en période Survivor Series, toi, c'est la guerre. C'est la guerre, les mecs font des angles d'invasion et tout, mais là, ils sont pas foutus d'aller plus loin que les cordes du ring pour aller botter le cul aux mecs qui sont entrés illégalement sur leur territoire. Enfin, je sais pas. ouais, c'est ça, c'est y a des barrières magiques à WWE. Bah, si tu veux, on va parler de ce qui s'est passé du côté des filles, justement, ce que tu aurais voulu voir entre les garçons, ça s'est passé entre les filles. Alors, rapidement, il y a eu Heavy Machinery qui ont disposé de jobbers locaux.
Ouais, justement. Kevin Thieves et Kip Stevens, voilà.
Ah, d'accord. tu notes vraiment tout.
Ah, bah, j'ai un petit résumé devant, là, avec ton nom, etc.
Ah, c'est bien. Hein,
voilà, c'est effectivement des catcheurs locaux, ils sont déjà venus plusieurs fois à la WWE. Dès que WWE passe dans le coin de Philadelphie et qu'ils ont besoin d'extra, ces mecs reviennent de temps en temps. Quoi.
D'accord.
Différents noms, mais voilà.
D'accord, le mec, voilà, ils ont père de 3 enfants.
C'est ça. Et ce que je viens de vous dire est plus intéressant que le match en lui-même. Hein. Voilà.
Ouais, voilà, le match c'était juste pour avoir un petit peu de fun après cette séquence d'invasion, effectivement. Machinery, voilà. Du moment que tu montes le nombril de Otis qui fait la Caterpillar et puis tout le monde est content.
Ouais, mais voilà, encore une fois, ça ne fait rien pour les séries, ça ne construit rien du tout, ça n'aide personne, ni aucune storyline, qu'elle soit concernée par pay-per-view ou non. C'est vraiment, c'est vraiment la pause toilette, quoi. On en revient à ça.
Ouais, c'est effectivement un petit peu dommage de ne pas monter d'un petit cran dans tout ça. Mm-hmm. Chez les filles, justement, donc il y avait une petite interview backstage de Bayley et Banks. Alors, écoute, j'ai trouvé ça assez étrange, cette interview, ouais. Parce que j'ai trouvé que Bayley était pas trop mal. Je trouvais qu'elle maîtrisait pas trop mal son interview, mais surtout, elle avait pas du tout le même personnage. Le nouveau personnage qu'elle avait créé. Normalement, ce personnage un petit peu on va tous mourir, ado,
Emo,
quoi, dark, scroll all of you, quoi. Enfin, c'était clairement l'angle qu'elle avait, c'était sad Bayley, quoi, grosso modo.
Oui, c'est la vie pue et craint, et à la fin, on meurt tous.
C'est ça.
Et là, j'étais mort de rire quand j'ai entendu ça. J'imaginais le nombre. Petites filles, des petits garçons de moins de 10 ans qui avaient leur t-shirt et leur truc coré de Bayley, tu sais, mec, les brûler dans le jardin de désespoir et de rage.
Ah, parce que toi, tu l'as pas fait, t'as pas brûlé ton t-shirt dans le jardin?
Non, j'avais pas eu de t-shirt à la base, hein. J'avais pas de Bayley Buddy chez moi, non. Mais je pense peut-être qu'ils se sont rendus compte, c'était un peu tout dark peut-être pour les ch'tis enfants.
Je sais pas, parce que ouais, j'étais hyper étonné du coup, parce que là, elle était plus en mode très sûre d'elle, mais.
Ouais, après, c'est ce qu'on nous raconte par rapport à la triple frite qu'il y a entre Lynch, Mazur et Bayley. C'est qu'elle est carrément... Les autres ne captent pas, quoi. C'est Bazer et Lynch se regardent face à face et Bayley, elle essaie d'exister dans ce match en disant « Hey, mais moi, je suis là aussi, je suis une menace. » Donc, peut-être qu'elle essaie de regagner confiance en elle, de montrer qu'elle est une menace. Et donc, pour ça, elle doit avoir une attitude un peu plus agressive, un peu plus conquérante. Un peu plus assuré tout simplement, et c'est ce qu'elle nous montre là, ouais. Ce soir et mercredi, lundi dernier quand elle intervient dans les autres shows pour mettre son grain de sel, quoi. Donc c'est pas incohérent.
Ouais, du coup, ça c'était, je trouvais ça pas mal, cette petite séquence backstage, enfin du côté de Bayley, après Banks ça fait toujours la biatch avec sa patate chaude dans la bouche, hein. Ok. C'est un peu sur la touche là, même si c'est la capitaine de SmackDown, hein, donc c'est attention, c'est pas n'importe qui. Du coup, on avait un match entre Bayley ce soir et... On avait un match ce soir entre Bayley et Nikki Cross. Et si Nikki Cross gagnait, en fait, elle était dans la team SmackDown.
Mais, et Bayley dit dans la promo qu'elle ne mérite pas et que, à la limite, c'est plus Bayley qui devrait être dans la team SmackDown. Alors, on se dit, ça y est, elle passe, effectivement, comme tu dis, à une émo dépressive dans sa chambre qui ne veut rien faire. Ah, je suis plein d'assurance et de confiance, et même mieux, je vais faire mon match triple threat contre Baszler et Lynch, et en plus, je vais double duty, je vais faire le match 50-55. Ok.
Ouais.
Ok,
à la fin. C'est un peu chelou, vraiment, c'est un peu chelou. Moi, je suis perdu avec ces ados qui changent d'avis tout le temps.
C'est ça. Qui rangent d'abord leur chambre, qu'ils aient leur bac, après on discute, quoi.
Passe ton bac d'abord. Alors le match commence à peine, ou je sais même pas s'il a vraiment commencé, puisque Nikki Cross balance Bayley balance Cross dans les escaliers, je crois, et après Shayna Baszler débarque. Alors, elle est au four au moulin. Shayna Baszler est très investie dans cette Road to Survivor Series. Elle débarque et Bayley se barre. Et ouais, elle tombe nez à nez sur le NXT gang. Alors, il y avait Rhea Ripley, Mia Yim,
Tegan Nox et Dakota Kai. Ouais.
Voilà. Qui viennent parce qu'effectivement, la semaine dernière, Bayley a foutu le bordel à NXT. Et probablement qu'elle est un petit peu liée à tout le bordel qu'il y avait eu autour et pas juste le fait d'avoir attaqué Shayna Baszler.
Ouais.
Et donc Banks attaque Shayna Baszler, ça porte dans le bordel, grosse brawl, et on nous book un match, le fameux match que tu aurais aimé voir du côté des garçons, un match donc entre ces quatre filles, Dakota Kai, Ripley, Nox et Yim, contre Sasha Banks, Nikki Cross, Carmella et Dana Brooke. Donc on a un aperçu plus ou moins officiel du match-up qu'on aura vraisemblablement dimanche soir.
Ouais, peut-être. Alors, du côté SmackDown, ça se confirme. Hein. C'est les quatre là, plus Lacey Evans, qui sont donc l'équipe féminine.
Lacey Evans, ok.
Ouais, Par contre, du côté NXT, il n'y a rien qui est annoncé, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Il n'y a pas d'équipe annoncée.
Ouais.
Là, c'est, là, ce qu'on a vu, ouais, c'est plutôt la trois quarts de l'équipe féminine du match War Games qui aura pour le takeover. Hein.
Ouais.
Rhea Ripley, Mia Yim et Tegan Nox, hein, qui seront du côté de War Games, opposés à Shayna Baszler, justement.
Ouais. C'est ce qu'on se disait un peu en off, ce que je trouve assez excitant. J'en sais rien, toi. Mais je trouve ça bien mystérieux et assez intéressant effectivement de pas exactement savoir qui va être dans toutes ces équipes-là dans ce gros week-end, parce qu'entre les War Games et Survivor Series, on multiplie les matchs avec ce genre de stipulation, quoi, les 4v4, les 5v5, du NXT versus SmackDown Raw, du Intra NXT, on voit un peu tout le temps les mêmes castings, hein. Moi je serais quand même assez étonné qu'on voit pas ces filles-là dimanche soir, parce que c'est grosso modo les seules filles de NXT qu'on nous a montrées véritablement à SmackDown et à Raw, quoi.
Ouais, il y avait eu quelques autres personnes qui étaient venues, il me semble qu'il y avait Bianca Belair, ouais, qui était là, Candice LeRae également,
oui.
Qui sont toutes les deux inclus dans le match War Games, Yoshirai, je sais pas si Yoshirai a pointé le bout de son nez, mais...
Je crois pas, non.
Yoshirai dans ce match, parce que c'est fabuleux ce qu'elle fait à NXT en ce moment. Il y a du monde, le roster NXT féminin est très très complet en ce moment et assez en il fuego, comme dirait Moreau. par contre, je pense que le fait qu'on ne sache pas aujourd'hui du tout qui aura côté NXT équipe chez les femmes ou chez les hommes, je pense que c'est double chose. Et d'une, je pense que Triple H n'a pas envie de rusher l'annonce, il veut prendre son temps pour construire ça convenablement. Et surtout, c'est que, comme on l'a dit, la veille, il y a War Games, qui est un des matchs les plus violents de WWE. Donc, il peut y avoir beaucoup de blessures. Donc, peut-être qu'ils vont se réserver le droit de révéler au dernier moment la composition de l'équipe NXT en fonction des blessures qu'il y aura à War Games, quoi.
Ouais. Effectivement, c'est pas impossible. De toute façon, clairement, même s'ils annoncent un casting, il va y avoir au moins une blessée grave, quoi. C'est pas impossible.
Ouais, ou un blessé grave, parce qu'il y a un match War Games masculin et féminin. Ouais. Donc du coup, plutôt que de dire, on annonce un line-up, puis finalement, on en change deux ou trois, et ça paraît un peu une équipe NXT de remplacement, et c'est compliqué à booker Strong contre l'équipe Raw et SmackDown, mais peut-être mieux effectivement se réserver la surprise, réserver ça l'année moment, le dimanche, en donnant l'impression que ce casting-là, c'est le casting qui était prévu depuis le départ, même si en backstage, il y a eu des changements, des ajustements suite aux blessures potentielles de War Games.
Ouais.
Moi, tout ce que j'espère, c'est j'espère qu'il y aura suffisamment de monde valide du côté NXT. Ouais,
après avec le roster, ils auront 300 catcheurs et catcheuses actives, ils vont être capables de devoir annuler les matchs, quoi.
Ouais, enfin, vu que t'as déjà Shayna Baszler et Strong qui sont mobilisés pour des matchs en triple threat, sortir 5 mecs et 5 filles qui sont vraiment des top talent NXT. Qui sont tous inclus dans des matchs Wargame ou des matchs de championnat, c'est compliqué, quoi. Ça peut partir dans un scénario, on fait les fonds de tiroir, on prend les seconds couteaux.
Bah, rien que du côté de l'équipe NXT masculine, où effectivement, tu l'as dit, ils sont déjà tous pris dans des matchs de champion contre champion contre champion le dimanche soir. À part Adam Cole, qui pourrait faire un très bon leader, évidemment.
Ah bah, je pense que c'est évident, avec faire le pendant de Rollins et Reigns, à part Adam Cole, pour ça. Ouais. Ou peut-être une Balor, aussi, ça serait marrant.
Ah bah, on peut le retrouver tout à fait dans l'équipe, hein, là, ça serait une équipe. Franchement, c'est peut-être pas forcément toujours hyper excitant, cette road, il y a des... des petites turbulences, mais quand rien que le fait de penser à la carte, quoi, c'est assez dingue. Écoute, mon bon amiral, si j'ai rien loupé, j'ai tout gardé pour notre main event avec Daniel Bryan.
Ouais, je dis quand même que c'est l'équipe SmackDown, Banks et Carmella qui gagnent le match.
Ah oui, j'en avais oublié le match.
Voilà, après un match disputé, moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce match-là, c'est les interactions dans le ring entre Rhea Ripley et Sasha Banks, où c'est vraiment du très très bon. Il y a vraiment des petites séquences de catch et de chain wrestling qui étaient vraiment, vraiment cool. Rhea Ripley, elle a un star power qui est vraiment cool. Elle était dans le même roster, la SmackDown, comme un poisson dans l'eau. Elle est impressionnante physiquement. Elle a un style qui percute bien. Elle a un physique aussi assez atypique. Et voilà, quoi, ça marche très bien là, contre Banks. Moi, j'ai envie de voir un match complet entre les deux. En tout cas, j'espère qu'on aura une séquence un peu plus longue ce dimanche entre les deux lors des séries. Mais bon, voilà, comme la semaine, comme à Raw, c'est l'équipe locale qui gagne et qui défait les petits jeunes de NXT.
Ah ouais.
Parce que c'est logique.
Ouais, non, effectivement, Rhea Ripley, il faut que ce soit Rhea Ripley qui mène la danse, qui mène cette équipe de filles, même dimanche. Hein. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Franchement, je ne sais pas combien ils vont s'en sortir parce que c'est à haut risque ce week-end pour les catcheurs impliqués. Bon, effectivement, maintenant qu'on a parlé de ce match que j'avais un petit peu zappé, on va passer à notre main event qui a pris racine tout au début. Alors, on a eu un épisode de la Firefly Funhouse, puisque effectivement, il s'est passé quelque chose d'incroyable pendant la tournée mondiale de l'amiral. The Fiend, Bray Wyatt, s'est emparé du titre universel. Dans un grand spectacle qui a créé à la fois l'excitation et les cris de désespoir des uns et des autres. Donc effectivement, la manière n'a pas forcément été la plus populaire. Mais voilà, il a son titre. Et surtout, dans cet épisode de la Firefly Funhouse, Bray Wyatt a dévoilé une nouvelle ceinture pour le titre universel. Puisque si le problème de la ceinture universelle, c'était parce qu'elle était rouge comme Raw, et ben Bray Wyatt, il est pas con, il l'a repeinte en bleu comme SmackDown.
Ouais, c'est tellement, ça va tellement bien avec son personnage de faire ça, quoi. J'ai tellement envie de le faire. Je trouvais ça, ouais, pareil, Tu comprends pourquoi derrière en backstage, etc., il change la ceinture de couleur, il n'y a pas besoin d'expliquer, on comprend. Il y a un show bleu, un show rouge. Maintenant, la ceinture est là, donc il faut qu'elle soit bleue. Pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est à Bray Wyatt de faire ça, quoi? Est-ce que c'est à The Fiend de faire ça? Est-ce que c'est ça qui est intéressant à faire avec son personnage? Ils auraient pu faire 3000 façons différentes. Comme, je sais pas, il nous sort une ceinture complètement glaucasse qui va avec son personnage. D'ailleurs, il me semble que Bray Wyatt, avant de changer en The Fiend, il avait fait une version de la ceinture. L'autre titre WWE Championship version Bray Wyatt, justement, qui était assez cool avec des morceaux de cuir à piécer, etc. Il aurait pu faire une ceinture comme ça, et quand quelqu'un l'enlèvera de The Fiend, eh bien, ils en profitent pour la changer, en mettre le bleu corporate Fox à SmackDown. Mais là, que ça soit The Fiend qui fasse ça, je trouve que c'est
Il nous a fait un petit tour de magie, il a mis son chapeau de prestigitateur, et puis hop, la ceinture est dorénavant bleue, que vous l'aimiez ou non. Et ce soir, il y a un Miz TV avec Daniel Bryan et évidemment Bray Wyatt et probablement The Fiend vont regarder tout ça d'un œil très intéressé. Donc Daniel Bryan, dans le couloir, il croise Sami Zayn et Nakamura. Sami Zayn lui dit « Oh, au fait, mec, ma proposition tient toujours là. Est-ce que tu veux nous rejoindre? On a vraiment besoin de toi. » Bryan dit « Écoute, j'y ai pensé. Sami, t'es gentil, mais la dernière fois, tu t'es barré quand on était en difficulté. » Sami Zayn, il est génial, Sami Zayn.
Ah, et excellent.
Mais attends, non, il y a une mésentente. Je pensais que tu étais avec moi, qu'on fuyait tous les deux ensemble. Tu étais juste derrière. Je partais, j'allais chercher Nakamura, en fait. T'inquiète pas, c'est une mésentente. Et Daniel Bryan dit, il refuse l'invitation. Il est bête, il refuse l'invitation. Pendant ce temps-là, t'as Nakamura, en fait, cette team, elle est super, quoi, parce que Sami Zayn, il parle, et t'as Nakamura derrière, qui fait tout, qui raconte son histoire avec son visage, quoi, qui fait la moue, qui est pas content, ou, tu vois, qui va serrer les sourcils et tout, enfin, c'est génial ce qu'il fait Nakamura dans cette équipe. Ouais.
Mais Zayn, vraiment, je trouve qu'il a été au micro, à cette séquence-là, exceptionnelle. Sans faute, quoi.
Ah ouais. Donc Bryan dit, écoute, t'as qu'à recruter Braun Strowman. Et puis Sami Zayn, il fait, Braun Strowman, il est juste très, très grand et très gros. Il se retourne et qui est là? Braun Strowman, il fait, non, mais tu es très grand et très beau et très gros et c'est bien. Il commence à essayer de
jouer. Il fait du temps.
Avec Nakamura, là, on va là-bas, on va essayer de retrouver Daniel ou peu importe. Mais toi, essaye pas de nous retrouver. Hein. Nous, on te retrouvera plus tard. Mais toi, essaye pas de nous retrouver.
C'est nous qui te contactons. Hein. Pas besoin de nous relancer. C'est bon. On réfléchit. Poil, ça vient se passer. Bisous. Bonne soirée. Ce sera même qui reste là, impassible.
Ça, c'était vraiment fun. Bon, Sami Zayn, il m'éclate, quoi. Vraiment, il n'a pas à rougir face à Kevin Owens. Les deux, là, c'est vraiment des rois du micro. Ouais. Donc, bravo, monsieur Zayn. Et tout ça nous amène à notre main event, puisqu'une fois n'est pas coutume, SmackDown se termine par un segment, et non pas par un gros match. On a un Miz TV. Alors, Miz, Daniel Bryan, voilà, ils sont pas les plus grands amis du monde, mais on va essayer quand même de faire le Miz TV. Daniel Bryan refuse de répondre un peu aux questions. Il demande à Daniel, d'après toi, pourquoi le Finn t'a attaqué? Il a l'air d'en avoir après toi. Tu m'as l'air, et je pense que le Finn, il sent que Daniel Bryan est en un état un peu instable, il est confus, toi. Donc, il doit le sentir, ça. Alors, Bryan, il explique que de toute façon, Miz TV, ça craint. Alors, il commence à avoir vraiment une attitude un peu de heel. Hein. Il insulte un petit peu tout le monde, ça a toujours craint ton émission.
Oui, après ça, ce qui est marrant, c'est que quels que soient leurs alignements, Miz et Bryan, qu'ils soient heel face, heel, ils ne s'entendent pas, ils ne s'aiment pas. Et c'est cool qu'il y ait des trucs comme ça qui restent, quoi. Que d'un coup, parce que maintenant je suis devenu face, on est bon amis parce qu'on a les mêmes valeurs. Non, on peut pas se fiffrer, quoi.
Ton émission, elle craint de toute façon.
Miz TV sucks. Ok.
Et effectivement, mais t'as raison, Miz. Voilà, j'ai changé. J'en peux plus, quoi. Burnout, quoi. Hein. J'ai toujours la passion. Ferme-la, d'ailleurs. Il fait un gros shut-up. Le public n'aime pas ça. Hein, quand on s'en prend au Miz TV, c'est quand même une émission très sympa. Et puis, il joue un peu pas la victime. Il dit, ouais, de toute façon, personne ne peut vraiment comprendre. Après tout ce que j'ai traversé.
Moi, je suis mentalement instable, mais j'ai la passion. Toi, tu sais pas ce que c'est. Personne me comprend. Il y en a un autre qui a la passion et qui est instable, c'est The Fiend.
Eh ouais. Donc ils ont des choses en commun, visiblement. Mm-hmm. Ils ont des choses en commun. La Firefly Funhouse réapparaît avec Bray Wyatt. Et Bray Wyatt n'est pas content. C'est pas très bien. C'est sympa de parler comme ça des copains là quand ils sont pas là. Le Fiend, il t'a attaqué sûrement pour te faire peur, parce que lui, il se souvient, ou alors peut-être qu'il veut jouer avec toi, on sait pas trop. Et là, alors c'est là où ça devient un petit peu confusant, et c'est confusant, comme on dit, pour plein de monde, puisque alors, Bray Wyatt sort la ceinture bleue, la belle ceinture bleue qui plaît tant à l'amiral, de son coffre à jouer, et demande à Dan Bryan s'il veut jouer, et pour ça, y a, comme dans ce film d'horreur, là, Chucky la poupée. Tu veux jouer avec moi? Et il lui dit, mais pour ça, tu as juste à me répondre le fameux mot magique. Alors, le mot magique, pour Daniel Bryan, c'est yes. Hein. Voilà, c'est
forcément.
Ça le mot magique. Ah, oui. Mais Bryan dit non. Et là, tu as tous les jouets, toutes les poupées, les marionnettes de Bray Wyatt qui font yes, avec l'incrustation de yes en cartoon. Donc, c'était assez marrant. Daniel Bryan, sans tête, il dit non, je ne vais pas jouer avec tes marionnettes. T'as un problème ou le film, quelqu'un a un problème, un de vous deux a un problème avec moi, et si c'est le cas, on va se battre et on va se battre pour le titre au Survivor Series. Ok, d'accord, c'est un peu ce qu'on était demandé. Daniel Bryan, alors Bray Wyatt est content, il fait le yes chant, à en devenir rouge, explosé.
Ouais, version au port de l'orgasme, quoi, c'était. Oui. Ah ouais, il est vraiment très content de cette nouvelle. Hein,
je vois que monsieur est très content de me voir.
Et oui.
Et donc on a le match est visiblement booké deux fois de suite là. Et en plus on a le Miz qui arrive et qui dit et au fait si vous avez vraiment pas compris ce qui vient de se passer, il y a un match entre Daniel Bryan et Bray Wyatt au Survivor Series pour le titre, et c'est comme ça que le show se termine.
Parce que comme Baron Corbin, je boucle les matchs, voilà, c'est moi qui décide le Miz. C'est dans mon contrat de host de Miz TV, je peux booker des matchs si j'ai envie, de titres, dans un pay-per-view.
On connaît jours, pas exactement les contrats de ces mecs-là, effectivement.
Non, mais on essaie de décrypter, justement, on essaie de comprendre comment ça marche.
Je veux voir la fiche de poste du Miz, hein, parce que visiblement, effectivement, il a beaucoup, beaucoup de responsabilités. Est-ce que tu as kiffé qu'est-ce que t'as pensé de ce bordel? C'était un sacré bordel quand même pour comprendre ce qui est en train de se passer à la fin.
Ouais, alors du coup, c'est quand même compliqué. Ils abordent une thématique où, présente un Bryan qui est toujours excellent hein, dans ce qu'il vend, même si on lui demande de faire une promo
énergie,
sur une petite storyline qui est un peu bancale, qui est pas très claire, il le fait à 3000% et il le fait bien. Donc vraiment, c'est entre l'intervention de Sami Zayn et Bryan, on a eu très bon level en termes de, d'acting. Donc ouais, on présente un Brian qui est au bout du rouleau, qui sait plus trop quoi faire, qui admet qu'il est mentalement instable, mais qu'il a cette passion brûlante, etc. Et ouais, Bray Wyatt qui lui dit, ouais, le film n'a pas oublié ce que t'as fait. Alors déjà, première question un peu interloquée, qu'est-ce que Brian a fait ? Est-ce que c'est une référence au fait que Brian a été dans la Wyatt Family à un moment donné et a trahi ? Mais dans ce cas-là, ça remonte à loin. Il faudrait qu'il nous le mette un peu plus en exergue si c'est ça le ressort de la feud. Entre les deux, ben, il serait bien qu'il nous rafraîchisse sa mémoire et qu'ils en parlent un peu plus, quoi. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il reste qu'une fucking semaine avant le pay-per-view.
Ouais, c'est
donc cool. C'est court, c'est super court, et c'est dommage avec les deux personnages là qui sont capables de donner effectivement, de construire une storyline de façon putain d'efficace, de donner que ouais, deux épisodes pour builder ça, quoi. C'est, encore une fois, c'est le short time booking. T'as l'impression vraiment que les gars sont réveillés il y a 10 jours. Qu'est-ce qu'on fait faire pour le Universal Title? Oh ben attends, on a qu'à mettre Brian, enfin.
Ouais, c'est dingue, c'est vraiment, enfin, moi je suis vraiment partagé, sur cette scène finale, je suis partagé sur cette rivalité, pas intrinsèque, enfin, en soi, c'est genre, enfin, c'est comme un Daniel Bryan versus Miz presque, toi, tu fais, ah ouais, enfin, tu remontes à loin, il y a un passif entre les deux, si tu l'utilises... Enfin, grosso modo, les mecs là sont faits effectivement pour se rencontrer avec un gros background et une rivalité sur plusieurs mois. Et en fait, bah, le problème, c'est qu'on n'a pas une rivalité sur plusieurs mois, une rivalité sur deux semaines, qui sont effectivement le booking complètement rushé à la dernière minute, parce que clairement, ils avaient juste pas idée, enfin, ils l'avaient oublié, ce titre, tout simplement, ou alors ils étaient encore sous le choc. De ce qui s'était passé en Arabie parce que ils avaient oublié là, ils avaient oublié à l'aéroport, ils avaient oublié Bray Wyatt, The Fiend et la ceinture qu'elle avait avec, parce que là les mecs se sont réveillés, enfin ils ont mis en pause l'espèce de Nakamura versus Daniel Bryan qui pour la peine était bien amené, bien construit, toi, avec tout le talent de Sami Zayn qu'on a encore revu à l'action ce soir. Donc, ceux qui ont un petit problème d'instabilité mentale, c'est pas forcément les mecs qui sont entre les cordes. Hein.
Non, c'est sûr. Et puis, bon, c'est mécanique, un espèce d'artifice qui nous ressort de temps en temps. Hein, attends, on veut faire feuder un tel et un tel, on n'a pas de bonne raison. Regardons dans les 10 dernières années, est-ce qu'il n'y a pas eu une dispute ou un problème avec eux. Ils nous ont fait le coup entre CM Punk et Orton quand ils feudaient, ils ont cherché un truc il y a 5 ans. Entre Kofi Kingston et Orton, pendant le règne de Kofi, ils ont fait pareil. Souviens-toi, en 2006, tu m'avais craché dessus à la cantoche, c'était pas cool. Là, c'est pareil, quoi. C'est vraiment là, on n'a pas le temps de buder un truc. Faut un prétexte, bon ben voilà, on a ça dans les vidéos, très bien. Et ça peut ne pas être complètement inintéressant, mais il faut prendre le temps pour le faire. Alors après, voyons, on le verra à moitié plein. Peut-être que là, le match dimanche prochain aux Series ne sera que le début véritablement de cette feud, et qu'il y aura encore derrière un programme de 2-3 mois où ça va se développer, où on va jouer avec l'instabilité mentale de Brian ou pas. Enfin voilà, ce serait bien que ça aille un peu plus loin cette histoire, quoi. Quitte à les faire feuder un peu trop rushé, ben que ce soit le premier chapitre ou le début du premier chapitre, et que derrière on prenne le temps de développer et qu'il y ait encore 2-3 matchs pour solder cette storyline avec effectivement des promos, des séquences de développement qui sont intéressants.
Ouais, mais moi j'ai dit ok les gars, on peut faire comme ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'effectivement c'est un peu compliqué vu le personnage de The Fiend entre les cordes. C'est un peu difficile de voir des rivalités assez longues avec The Fiend finalement, parce que enfin, le mec est intuable entre les cordes, donc il faut voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à trouver comme astuce pour que ça dure derrière. Mais en tout cas, effectivement, il y a l'angle, enfin, l'histoire d'instabilité mentale, elle est, je trouve, plutôt intéressante avec un Daniel Bryan qui va réussir à te vendre cet angle-là. Effectivement, Daniel Bryan, enfin, grosso modo, les dernières semaines ont été assez instables, justement, par rapport à Daniel Bryan sur son alignement. Le mec, il se met en team avec Roman Reigns, et puis après, il veut se mettre la foule à dos, puis après, il est gentil, après, il est méchant. On a plus l'impression que c'est l'instabilité des bookers qui veut ça, mais ça colle avec Daniel Bryan. Donc, moi, je trouve ça super, cette rivalité, mais là, effectivement, il va falloir vraiment nous trouver quelque chose, parce que ça risque d'être assez... Une fois de plus, ils se compliquent la vie, mais un truc de dingue, quoi. Ils prennent pas leur temps et au dernier moment, ils prennent une autre décision. Ils partent sur autre chose, quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si après le match de dimanche prochain en series, hop, on arrête la storyline arrivée, Brian retourne feuder Nakamura, ça aurait été un espèce de gâchis énorme. Voilà, donc j'espère qu'ils vont quand même essayer d'en faire quelque chose d'intéressant derrière. Ce serait pas le premier accident heureux qu'on pourrait voir. Hein.
Ouais. Bon. C'est juste, je me dis quelque part, avec un mec comme The Fiend, ils ont pris leur temps pour créer ce personnage-là. Enfin, parce que Bray Wyatt, il était quand même dans les limbes pendant des années. Ils ont pris leur temps pour le faire apparaître à l'écran, avec genre 2-3 mois de Firefly Funhouse qui ont bien fait monter la sauce. Et maintenant qu'il est là, tout doit aller très vite, tout est précipité, et on nous balance des grosses feuds 2 semaines avant les pay-per-view, qui pourraient être presque un endgame, finalement. Enfin, la rencontre entre Bryan et Bray Wyatt, si tu pars vraiment sur le délire, Daniel Bryan a causé la perte un petit peu de la Wyatt Family, ou un truc comme ça, toi, il a participé à pourrir la Wyatt Family de l'intérieur, c'est une histoire hyper intéressante à raconter, et tu la fais pas comme ça un lendemain de pay-per-view, l'Arabie Saoudite et Survivor Series en deux trois épisodes. C'est ça qui est dommage. Je lui dis, ils auraient pu garder ça pour un peu plus tard.
Eh ben non.
Et puis c'est
pas du tout.
Perdu. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, ma bonne dame. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Bordel, il y a des gens qui travaillent ici. Bon, ben nous aussi, on travaille, on fait notre devoir de critique, d'analyse, et on vous a donné notre avis sur cet épisode. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin. On va essayer de synthétiser notre top, notre flop et notre note. Amiral.
Le top, ça aurait été la performance au micro de Bryan et Sami Zayn. Vraiment, ouais. Encore, on en veut voir des segments comme ça, interprétés comme ça, c'est génial. Le flop, ça aurait été le segment de début avec Corbin, Ziggler et Roode et tout ce qu'on a déjà dit. C'était vraiment pas bon du tout. La note, un petit 2 timide. Hein, il reste plus qu'une émission de SmackDown et Raw avant les séries. J'espère que la semaine prochaine, ils vont un peu se bouger, les scénaristes, et nous pondre des trucs un peu intéressants. Parce que s'ils finissent le Go Home Show des séries, c'est le SmackDown la semaine prochaine, et qu'il est aussi plat que celui-ci, l'excitation sera pas au rendez-vous, quoi.
Ouais, effectivement. C'est assez étrange. C'est assez étrange. On a vraiment des... Bah, toi, moi, mon top, je vais le donner. Tout comme toi, je pense beaucoup de bien de Zen et Bryan au micro, c'est des dieux, tout simplement. Je vais en profiter pour le donner à tous ces mecs de NXT qui, à chaque fois qu'ils viennent, les mecs, ils ont une énergie, ça déborde de partout, aussi bien les filles que Disputidera, ils étaient chauds comme des baraques à frites, les mecs qui cherchaient la bagarre, même si après ils partent en fuyant parce que c'est des heels qui sont des sales gosses, mais... s'invictif, enfin, il y a vraiment toute une énergie quoi qui est apportée par ces mecs-là, donc ça a pas loupé une fois de plus. Et les mecs sont venus, ils ont foutu le bordel, ils sont sûrs de leur coup et ils repartent, et tout le monde est là après. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super, toute cette énergie. Et mon flop, je vais le donner à ce segment final. Alors pas tant sur la performance des mecs qui étaient impliqués, mais tout ce flottement qu'il y a eu à la fin entre non, mais c'est moi qui boucle le match, non, je veux pas de ce match, mais je veux de ce match, plus le Miz derrière qui ajoute, enfin, je sais pas, ils ont dû combler, ils ont peut-être terminé 2 minutes avant la fin, le tombé du rideau, mais tout ce flottement, il a vachement trahi le vrai flottement qu'il y a autour de ce booking de Bray Wyatt et de The Fiend et des mecs qui sont autour, qui sont impliqués avec lui. Parce que on flotte et moi je m'approche de pay-per-view et je suis pas autant excité que je devrais l'être pour cette affiche, alors que c'est pas n'importe qui, et donc c'est bien dommage tout ça. Ma note 2,25. Écoute, c'est l'heure de l'autopromo, comme disait Raphaël avant de nous quitter en direction de l'Amérique du Sud. Voilà, catch up, on passe, on repart. C'était un port dans l'océan du catch. L'heure de l'autopromo, vous pouvez nous suivre évidemment en audio sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast, Les Vertes et les Pas Mûres. On est également sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, votre top, votre flop et votre note en commentaire. Le lien pour Discord est dans la description. Je te remercie une fois de plus, Amiral.
Toujours un plaisir.
un retour en fanfare là.
Ah, tu vois. Je me remets dans le bain, un grand splash.
Un grand splash, la bombe de l'amiral. Eh bien, on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut. Celui qui a le plus de likes a le droit de faire le tomber sur le 24-7 et être 24-7 champion pendant 5 minutes.
Oh putain, alors là, par contre, je serais fin fou, là, parce que être dans la avoir sur la page Wikipédia l'historique des règnes et avoir mon nom, ça serait
pas mal, quoi. En même temps, c'est plus une page Wikipédia qu'il faut pour les règnes 24-7, c'est un tableur Excel, quoi.
Croisé dynamique.
C'est clair. Attends.